1960. 1er juillet 1962. 1er juillet 1962. Ces trois dates correspondent à l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, à l'indépendance du Burundi le 1er juillet 1962 et à l'indépendance du Rwanda le 1er juillet 1962 également. Africa. Pour commémorer, pour fêter des indépendances, nous vous avons concocté une petite histoire hein, par rapport à l'histoire de ces pays avant la colonisation, avant l'esclavage.
Radio Publique, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles.
La radio africaine, la radio bruxelloise africaine du moment.
Radiopublique.be.
Le royaume Congo se développa à la suite de migrations bantoues. Pour la petite histoire, il faut savoir que la migration bantoue reste et est encore aujourd'hui un phénomène pas encore clarifié, car très complexe. C'est un phénomène historique majeur qui s'est déroulé sur une très très grande échelle d'espace et de temps, ayant débuté vraisemblablement au début de l'ère chrétienne. Cette migration n'était pas encore achevée à la fin du XIXe siècle. Il faut savoir aussi que bantou, le suffixe « ba » veut dire « les » et « tout » veut dire « les hommes ». Donc, ça veut dire tout simplement « les hommes ». Alors, qu'en est-il du territoire Congo ? Congo avec un grand K. Le territoire Congo serait né entre 400 et 600 après Jésus-Christ. Mais il est admis que l'ancêtre primordial des Bas-Congo, le Nkanka Yakisina, serait une dénommée Nzinga, fille de Kuyu, et épouse du héros mythique Nimi Alukeni, ou bien Tinu Wene, et il venait de l'Est. Alors, pour la petite histoire, Nimi Alukeni, qu'on appelait le roi forgeron, était un Mutinu, donc un chef, qui était à la tête hein, d'un groupe conquérant qui descendait du nord du Mayumbe, qui est la chaîne de basse montagne, hein, là-bas au Congo, vers le bas Congo, la province du Nsundi. Il pénétra ainsi avec ses troupes hein, dans la deuxième moitié du XIVe siècle dans la province du Nsundi, qui était alors un pays occupé par les cultivateurs en Bundu. Nimi Alukeni s'y installa et vient s'y établir sur le plateau appelé Congo, où était située l'actuelle ville de San Salvador, donc en Angola, à 100 km environ au sud du fleuve Congo. Il s'allia avec le chef de la terre, donc le Mwami Vunda, qui appartenait au clan de Nsaaku, et il épousa une de ses filles, donc Nzinga, et c'est ainsi que commença l'expansion du royaume Congo, qui deviendra par la suite l'Empire Congo. Donc, l'expansion du royaume Congo se fit à partir du plateau de la colline appelée Congo, et semble-t-il de manière relativement pacifique, grâce à une habile politique d'alliance matrimoniale et aussi grâce à leur supériorité, hein, on ne va pas le dénier, à leur supériorité en termes d'armement. Parce que cet homme, ainsi que ses troupes, étaient armés de fer, alors que les autres, les autochtones qui habitaient donc au départ sur ce territoire, étaient armés seulement d'armes faites de pierre. Donc voilà, on ne peut pas matcher, quoi. Au XIVe siècle, le royaume Congo couvrait, donc se composait de 6 provinces traditionnelles. Le Mbemba, le Mbanta, le Mbamba, qui se trouve dans l'Angola actuellement. Il faut savoir que le Mbamba revêtait une importance stratégique en termes de défense du royaume. C'était la base défensive hein, du royaume. Il y avait également le Sonyo et le Nsuundi, qui étaient le fief du premier roi de la dynastie. Et aussi le Pangu. Sur ces 6 provinces, l'autorité royale était directe et effective. Cependant, plusieurs territoires situés au-delà des frontières du royaume historique du Congo reconnaissaient la suprématie du Mani Congo, donc le seigneur Congo, et lui payaient un tribut. Donc les provinces côtières situées au nord du Congo actuel étaient des royaumes vassaux, donc le Ngoyo, le Kakongo et le Luango, d'où la dénomination d'Empire Congo. Cet immense territoire comprenait la République démocratique du Congo, la RDC actuelle, le nord-est de l'Angola, le sud-est du Congo-Brazzaville et un peu du Cameroun actuel ainsi que du Gabon. énorme, quoi. C'était énorme. À l'arrivée des Portugais, en 1482, les limites de l'Empire Congo étaient constituées et étaient remarquablement centralisées. Pour la petite histoire, les chroniqueurs européens ont fait énormément, beaucoup, mais vraiment beaucoup de confusion dans leur estimation sur le territoire de l'Empire Congo. Ils réduisirent souvent le territoire Congo aux seules dimensions de la province capitale qui était le Zita Dia Nza, qui littéralement veut dire le nœud du monde, dont le chef-lieu était le Banza Congo. Après l'arrivée des Portugais, le tissu social se détruisit progressivement. C'est la bataille d'Ambulia où l'armée portugaise vaincut les troupes de l'Empire Congo et décapita donc le roi Antonio Ier, Nvita, qui est connu sous le nom de Nvita Kanga, et il mettait la fin du contrôle indigène du royaume de l'Empire Congo. Donc c'était lors de cette bataille, le 29 octobre 1665, qui marqua la fin de l'Empire Congo. Il ne sera plus jamais question du grand empire unifié que les Portugais avaient découvert en 1482 et qui était florissant et bien administré. Alors, mais qu'en est-il de l'organisation même de ce grand empire Congo ? La succession se faisait de manière héréditaire. Non, elle ne se faisait pas de manière héréditaire. Tous les proches parents du roi, donc les fils ou neveux, pouvaient briguer, prétendre au trône. Mais la préférence, quand même, allait à la succession matrilinéaire, car ce mode de succession garantissait une certaine stabilité. De manière générale, c'est une société matrilinéaire. Donc la succession est faite par la parenté féminine. C'est une organisation sociale très complexe, comme vous le pouvez l'imaginer, et dirigée par les hommes. La capitale, Banza Congo, qui deviendra plus tard San Salvador, qui se trouve maintenant en Angola, comportait au nord un bois sacré, où toute coupe était interdite. C'était la nécropole des rois. Au sud de la capitale, une grande place, dite Mbanzi, servait de cour de justice. Le roi y siégeait sous un immense figuier. Les maisons étaient de construction rectangulaire ou bien circulaire. Elles étaient en bois, en feuilles de palmier, en chaume et clôturées de haies. En ce qui concerne le domaine royal, l'enceinte royale, qui était faite de pieux et de lianes, avait un périmètre, écoutez bien, de plus de 1 km. Aux portes étaient postés des gardes et des sonneurs de trompes. À l'intérieur, une place s'étendait devant une deuxième palissade qui clôturait les demeures du roi et de la reine. On y accédait par un labyrinthe. Tiens, tiens, un peu comme à l'image du Monomotapa, donc l'empire du grand Zimbabwe. Tout se retrouve. Quand le roi apparaît, c'est sur une estrade. Son trône est en ivoire. Il porte bijoux, des bijoux en fer, en or, en ivoire, et habillé avec des étoffes de qualité, ou bien avec des peaux de bête qui lui sont totalement réservées. Sur sa tête est posé un bonnet brodé et sur l'épaule une queue de zèbre. Devant le roi, on s'agenouille et on se prosterne. La reine, quant à elle, elle était vénérée. Quand elle voyageait, des domestiques la suivaient et claquaient des doigts donc, pour annoncer sa présence, un peu comme les castagnettes. L'armée du Manikongo était essentiellement composée de fantassins. Ils étaient souvent cuirassés de peaux d'éléphant en guise d'armure. Mais qu'en est-il alors de l'économie du pays même ? La monnaie du royaume Congo était les Nzimbu. Donc c'était des coquillages de l'île de Luanda. C'était les femmes qui garantissaient l'exploitation de ces mines de coquillages. Et c'était la royauté qui en avait le monopole. L'Empire Congo était un État très, très développé, avec un large réseau commercial. Le pays fondait et commerçait le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie, et encore beaucoup d'autres choses. Et comme dit préalablement, le royaume disposait d'une monnaie et de finances publiques. On y pratiquait la chasse, l'élevage et bien évidemment l'agriculture. Le royaume comptait également de grandes et prestigieuses écoles qu'on pourrait assimiler à des universités, comme le Kimpansi, le Kinkimba, le Buelo et l'Emba. Le royaume possédait même son calendrier, qui était bâti sur la semaine de 4 jours, donc 3 jours ouvrables et 1 jour pour le marché. Il existait aussi un autre calendrier, le calendrier dit agricole, qui comportait 5 saisons. Et la population en elle-même, qu'en est-il de la populace, des gens du peuple, donc ? Il y avait des guérisseurs qui utilisaient des onguents pour soigner. Pour la petite histoire, ils utilisaient de la poudre de bois de santal comme aphrodisiaque. Des tisserands aussi avaient leur place dans ce royaume Congo, qui, à partir de feuilles de raffia ou de palmiers, brodaient des étoffes d'un coloris remarquable, ressemblant à du velours ou à du satin velouté. Le roi et la reine et les dignitaires portaient des chaussures dites à l'antique, tandis que les personnes de conditions moins aisées vaquaient à leur occupation pieds nus, buste nu. Les nobles, quant à eux, se couvraient de tissus fins et de peaux précieuses. Les femmes, elles, de condition, se couvraient le bas du corps de 3 bandes d'étoffe et se couvraient la poitrine d'une écharpe qui descendait jusqu'à la ceinture. Et la musique, le royaume Congo se trouve en Afrique, à Katiopia. Donc, dès le 15e siècle, la musique congolaise était jugée raffinée et délicieuse, comme peut l'attester le commentaire d'un marchand portugais, Duarte Lopes. Et il faut savoir aussi que l'artisanat également, là-bas, était d'une beauté mais extraordinaire, dont la renommée, cet artisanat a fait la renommée du musée des sciences naturelles ou le musée des colonies d'Afrique à Tervure, d'où on parle de restitution maintenant. Voilà, pour la petite histoire, c'était ça pour la petite histoire du royaume Congo. Maintenant, passons à un autre royaume, le Burundi. Le Burundi. Avant la fondation de la monarchie, il y avait au Burundi une multitude de royautés. Ces derniers seront unifiés par Ntare Ruachi au XVIe siècle. Selon une des légendes fondatrices, la nation burundaise a été fondée par un homme nommé tantôt Kambarantama, qui veut dire littéralement « vêtu d'une peau de mouton », tantôt appelé Ntare. Quand on s'appuie sur la version que j'ai appelée Kambaranta Netienne, le fondateur de la nation burundaise nous vient du nord du Rwanda. Mais quand on s'appuie sur l'autre version, donc la version Ntare Netienne, on va dire, il nous vient de Buha, qui est un territoire qui se trouve au sud-est de la Tanzanie. Donc, en effet, il faut savoir que l'historiographie du Burundi et également du Rwanda et de beaucoup de pays d'Afrique s'appuie essentiellement sur la tradition orale, qui est un mode de connaissance du passé centré autour de traditions et de légendes, mettant en scène la royauté et la société, et transmise de génération en génération. Alors, pour vous faire voyager un peu, nous allons ici vous partager les 2 versions de ces légendes fondatrices de la nation burundaise. Pour commencer, la version que j'ai nommée la version Ntare Tienne, donc où le fondateur s'appelle Ntare. Alors, Ntwero est un inconnu venant de la région du lac Tanganyika. Il va épouser la fille d'un chef local avec qui Ntare va avoir 3 enfants. Njambwe, Ntsoro et une fille, Inamabuye, qui sera la future épouse du roi de Buha. Et puis après, nada. On n'a plus rien sur ce fameux Ntwero. Bon, quoi qu'il en soit, Un de ses fils, Nsoro, s'installe au Bututsi, région montagnarde du Burundi. Et Djahambwe s'installe, lui, au Mugamba, donc la province de Bururi. On ne sait de quelle façon, mais Djahambwe aurait eu une relation avec une épouse de son frère. Bon, il est communément accepté qu'un jour d'orage, en fait, il était à la chasse, Djahambwe, et il s'est réfugié dans une maison où s'abritait également l'épouse de son frère Nsoro. Et bon, voilà. Ainsi, ils étaient seuls, il y avait de l'orage dehors, c'est vraiment la combinaison gagnante pour avoir une relation amoureuse, ou pas. Du coup, Soro, ils ont eu cet enfant, donc Djahambwe sera en même temps le père et l'oncle de cet enfant. Et cet enfant s'appelle Ntare, qui sera le fondateur donc, du royaume du Burundi. Soro, le frère de Djahambwe, bien évidemment, n'est pas du tout content quand il apprend cette nouvelle, que sa femme l'a trompé avec son frère. Donc, il va enlever l'enfant, il va enlever Ntare, alors qu'il gardait des veaux. C'est ainsi qu'une lutte belliqueuse s'engage entre les deux frères. Nsoro sera vaincu et se réfugiera dans le marais de Kitanga. Ntare part vivre chez sa tante au royaume de Buha, donc qui se trouve en Tanzanie. Un soir, qu'il était dans un profond sommeil, il fit un rêve prophétique qui lui annonça son retour au Burundi. Son oncle, le roi de Buha, frustré par le fait que son neveu gagnait, mais vraiment toujours, lors de duels au jeu, comme le jeu de Kibuguzo, c'est un jeu traditionnel qui se rapproche un peu de la Wele, mais ce jeu-là, il vient du Burundi. Et à chaque fois, c'était son neveu qui remportait la manche, et même dans des jeux de combat de taureaux. Donc, il était frustré, le roi du Buha. Et donc, il chassa son neveu. Bon, la légende n'est pas très claire là-dessus. On dit aussi qu'il chercha à tuer son neveu. Quoi qu'il en soit, Ntare, qui veut vivre, s'enfuit en traversant une rivière, donc le Malagarazi, et une forêt pour arriver au sommet du Nkoma. Et là, surprise, fait étonnant, Ntare entend un Nkoma, c'est un serpent quoi, un serpent qui frappait, il était en train de frapper ce serpent sur une peau de taureau qui était placée sur une termitière. C'est la naissance du tambour, le symbole même du royaume du Burundi. Et c'est ainsi que Ntare devient le roi du Burundi. Alors, l'autre version, dite Kambarantanatien, c'est moi qui l'ai appelée comme ça, nous explique donc que Ntare se trouve au Rwanda chez sa tante, qui est l'épouse d'un devin, le devin Mashira. Et donc, Kambarantama, donc, qui veut dire celui qui porte une peau de mouton, donc il arrivera à connaître de je ne sais quelle façon la prophétie qui lui annoncera une destinée glorieuse. La prophétie dit que s'il se fait forger des armes, il pourra partir au Burundi avec un taureau et là-bas, il devra tuer un fauve qui dirige le pays. On pense que le fauve qui dirige ce pays, c'est son père, en fait, Djahambwe. Ntare, par la suite, accomplit la prophétie. Voici les deux versions, donc. Alors, malgré les versions multiples, ce mythe fondateur du royaume du Burundi, il y a quand même une trame commune qui s'y dégage. Premièrement, Ntare apparaît comme venant d'un milieu boisé et il sort victorieux de ses combats avec des animaux sauvages. Deuxièmement, il est sous la protection d'une femme, c'est sa tante paternelle. Et troisièmement, il a des rêves prophétiques qui lui annoncent une gloire future. Voilà. Alors, un peu plus terre à terre. L'administration, donc, était calquée sur la différenciation en castes et sur les deux principaux biens de production. Donc, c'était la terre et le bétail. Il existait trois groupes sociaux aux frontières mouvantes et complexes. On insiste sur le mot « groupes sociaux » car il s'agissait d'un mode de différenciation de rôles et de travaux. Les relations ou mariages entre ces groupes n'étaient pas prohibées, quoique rares. et le Mwami, donc le roi, en tant qu'être sacré, donc Maana, transcendait tous les castes, tous les groupes. Les groupes sociaux étaient donc les Tutsis, les Batutsis, c'était des pasteurs et des guerriers. Deuxièmement, il y avait les Hutus, donc les Bahutus, ceux qui travaillaient la terre, donc c'était l'essentiel de la population. Et troisièmement, il y avait les Twas, les Batois. Ils étaient de petite taille et ils s'occupaient traditionnellement de la chasse, de l'artisanat. Et ils confectionnaient, par exemple, des céramiques. On dit aussi qu'ils sont considérés comme étant les premiers habitants, les autochtones du Burundi. Alors, donc, comme vous le voyez, c'était une société très, très administrée et hiérarchisée également. Deux chefs indépendants coexistaient dans chaque district. Premièrement, il y avait le chef de sol qui était responsable des redevances agricoles et il était également le juge des contentieux fonciers. Deuxièmement, il y avait le chef du bétail compétent pour les taxes sur les troupeaux, mais pas pour les procès concernant les contentieux liés au bétail. Cette tâche incombait à une troisième autorité, le chef de l'armée locale. Et pour finir, donc sur le Burundi, les multiples résidences royales relevaient directement de l'autorité royale et étaient gérées par une épouse ou une concubine du roi, parce qu'il en avait plusieurs. Hein, c'était de fait à cette époque-là. Alors maintenant, nous allons passer au Rwanda. Alors, Kihanga est le premier mwami, donc le premier monarque connu du Rwanda. Le Rwanda d'alors est une confédération de clans, donc ubwoko. Il y en avait une vingtaine. La population rwandaise, comme au Burundi également, était structurée entre les éleveurs, les agriculteurs et les artisans. Ce système qu'on pouvait qualifier de féodal était basé sur la possession de troupeaux, de terres, et cela était structuré, concrétisé, comme au Burundi voisin, par un chef de bétail, un chef de terre et un chef militaire. Les ubwoko, donc les clans, là, au Rwanda, comme au Burundi, sont composés donc de Tutsi, Hutu et Twa. Certains sont dominés par des Hutus et d'autres par des Tutsi. Donc il ne faut absolument pas voir là une division, hein, comme on l'avait dit précédemment, en castes ethniques. Ces classifications donc correspondaient naguère à des groupes socio-professionnels auxquels des fonctions politiques leur étaient associées. Et un de ces clans, un de ces ubwoko, dirigé par un lignage Tutsi, dominait la région. Et son mwami, donc son chef, était considéré comme le roi du Rwanda. Donc, le terme Tutsi désignait les éleveurs possesseurs de nombreuses vaches, tandis que les agriculteurs étaient nommés Hutus. Ils étaient moins haut placés dans la hiérarchie socio-économique. Mais comme vu préalablement, ces groupes n'étaient pas statiques. Hein. En fonction de certains événements entraînant une décision royale, on pouvait changer de groupe. Et les mariages intergroupes étaient légion. De façon générale, le nom Tutsi sert à désigner un ensemble varié de lignages ayant le monopole de l'élevage du bétail et par extension tout gardien de vache. Le nom Hutu désignait un groupe large d'agriculteurs et par extension toute personne qui vendait ses services dans le système de clientèle pastorale ou agricole. Et les Twa, bon, c'était les artisans. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de l'émission. Selon le mythe fondateur des populations du Rwanda, le récit de Gihinga, donc Kihanga, les Batutsi, les Bahutu et les Batwa étaient les trois fils d'un même père primordial, donc du Gihanga, qui vécut de 1081 à 1114. Et pour terminer, de nombreuses fouilles archéologiques atteste de l'existence d'une forte activité métallurgique, donc d'extraction et de fonderie du minerai de fer pour la confection notamment de l'isuka là-haut. Et cette activité métallurgique est également retrouvée dans le pays voisin, le royaume voisin, le Burundi. J'espère que voilà, on vous a fait un peu voyager, bien voyager, hein, à travers ce petit récit. et vous pourrez avoir des images nouvelles et valorisantes de ces trois pays qui, malheureusement, ont été colonisés à un moment donné par les Allemands, et les Portugais et la Belgique, bien évidemment. Voilà, bon voyage.